Claude Étienne, vous avez dit le Christ n'a jamais rejeté personne.
Oui.
Et vous avez cité la Samaritaine, il y a aussi la femme adultère. Mais le Christ dit quand même, à la femme adultère notamment, bon, c'est pas la question de l'homosexualité, mais ça reste un péché.
Est-ce c'est vite dit, hein.
Oui. Alors, je fais des raccourcis peut-être, mais Père Christophe Véron,
sont un peu courts quand même. Ah, oui.
Il dit, oui, mais le Christ dit, va et ne pêche plus. J'aimerais juste que Jean-Philippe, vous réagissiez à ça, et puis Père, après, vous reprendrez la parole.
Je dirais qu'on est tous pêcheurs, et moi le premier. Et justement, quand tout à l'heure je disais, je me suis dit, je dois vivre avec ça, maintenant je vais essayer de le vivre au mieux, bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire que comment faire en sorte que je vive le plus possible comme un chrétien. Et en fait, ce que j'ai découvert grâce à l'association, grâce aux personnes de l'église que j'ai rencontrées, c'est que c'est quoi l'essentiel ? C'est de savoir qu'on est aimé, tel qu'on est, irrémédiablement, et savoir que Dieu nous invite à le suivre, à aimer et à être aimé, enfin, et à essayer de faire quelque chose de bien pour soi, pour les autres. Et donc, si vous voulez, la notion de péché, évidemment, ça m'a effleuré, mais finalement, j'ai jamais pu, au fond de moi-même, assimiler l'homosexualité, ou en tout cas les actes homosexuels, avec un péché. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours essayé dans ma relation homosexuelle, donc dans ma relation avec des hommes, à être le plus respectueux possible, à le faire en toute sincérité. Voilà, donc ce qui fait que moi je vis avec une personne et avant je vivais avec une autre personne, mais là je suis en couple et c'est vrai que dans ma relation avec mon partenaire, ben voilà, j'y mets vraiment toutes mes valeurs et la volonté de vivre et de l'aimer en le respectant, en me faisant respecter et en essayant ensemble de faire quelque chose. Donc si vous voulez, pour moi ça peut pas être du péché parce que je le fais avec toute ma sincérité d'enfant de Dieu. Et parce que j'ai l'impression d'apprendre à aimer. Voilà. Donc, c'est pas à moi de dire si c'est un péché ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment pas l'impression que je donne. Et l'Esprit Saint, en tout cas, là-dessus, ne me travaille pas.
Père Christophe Véron.
Alors moi, je vais répondre sur un autre argument à Jean-Philippe, en prenant le U4 au numéro 67. Qu'est-ce que le péché ? Le péché, c'est le rejet de Dieu. Voilà, première chose. Et la deuxième chose, c'est tout rejet ou destruction de quelque chose de bon étant fait le rejet du bien pour le mal, le rejet de Dieu. Je dirais que Jean-Philippe, dans son existence, le moment où il a péché, c'est entre 16 et 22. Au moment où il n'a pas accepté cette situation. Si on regarde d'une façon aussi un peu plus précise, il a été dit tout à l'heure que l'homosexualité n'avait pas été choisie. Ce n'est pas un choix. C'est pas une décision libérée de quelqu'un de dire « je vais faire tel acte ou pas ». Il y a l'absence de choix. Et ça, c'est un élément important. Par contre, ce qui est très important dans ce qu'a dit Jean-Philippe, c'est, et ça rejoint une des phrases qu'il a dites en début d'intervention, c'est les exigences que je mets pour vivre cet amour avec une qualité. Et cette qualité d'amour, eh ben, va rejoindre les grandes exigences de l'Église, de fidélité, de fécondité, tout ce qui permet de construire l'individu dans une relation d'amour et une relation amoureuse, digne de ce nom, digne des exigences de la relation d'amour du père vis-à-vis de ses enfants.
Là, vous parlez beaucoup de couple et dans la fidélité. Est-ce que, Jean-Philippe, est-ce qu'un couple homosexuel, pour vous, vaut un couple hétérosexuel ?
Alors, moi, je vais dire que oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'amis qui sont en couple et qui sont hétérosexuels. On discute et je vois que finalement, ce qu'ils vivent et ce qu'ils construisent, bien sûr, ce n'est pas exactement la même chose qu'un couple homosexuel. De facto, c'est évident. Mais pourtant, il y a beaucoup de choses similaires. La relation à deux, la découverte de l'un et de l'autre, le fait de vouloir aussi être fécond à l'extérieur, le fait de dépasser des crises. Franchement, j'ai vraiment l'impression que bah, c'est très proche, ce qu'on vit. Voilà. Oui.
Non, mais quand on considère, juste je reprends, parce que j'ai rien inventé, le catéchisme de l'Église catholique, il ferme l'acte sexuel au don de la vie. Mmh. Est-ce que c'est une dimension, pour vous, ça représente quoi ?
Ce que je peux dire, c'est que comme disait le père Véron, si effectivement c'est pas choisi et donc ça peut pas être un péché, en revanche, on choisit la manière dont on le vit. Hein, donc, c'est vrai que la question, moi je m'étais dit, je peux pas être pécheur parce que je suis homosexuel ou je suis une personne homosexuelle. En revanche, la manière dont je vis ça et ce que je décide dans ma vie d'en faire, alors là, effectivement, là j'ai des comptes à rendre.
Et quand l'Église, encore une fois, et puis après on va passer, on a un auditeur qui est en ligne avec nous, mais quand l'Église dit les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté, est-ce qu'on peut vivre en tant qu'homosexuel, est-ce qu'on peut vivre ça de façon chaste?
Attendez, je peux vous demander de préciser votre vocabulaire? Qu'est-ce que vous entendez par chasteté, s'il vous plaît?
Justement, dites-le nous, mon père. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui le dit. Moi,
la chasteté est un mot ambigu dans l'Église catholique. Il a deux sens. La chasteté, telle que l'Église l'entend, c'est faire l'unité entre son corps, son cœur et son âme. Et il ne faut pas utiliser chasteté à la place d'abstinence, s'il vous plaît.
Eh bien, très bien.
C'est une précision de vocabulaire, mais qui est très importante pour ne pas entraîner de confusion dans la discussion.
Je vous en prie. Allez-y.
Oui, non, mais Jean-Philippe. C'est tout à fait juste parce que... parce que moi, j'ai décidé de vivre des relations homosexuelles et une relation homosexuelle, au moins une à la fois. Et ça, c'est très important. Voilà, maintenant, la chasteté, moi, j'ai vraiment l'impression de viser la chasteté. Bon, alors maintenant, c'est difficile, comme tout le monde. Et ça veut dire respecter l'autre. Ça veut dire ne pas décider à la place de l'autre. Ça veut dire être fidèle, être honnête avec soi-même et avec l'autre. Et là, c'est vraiment quelque chose vers laquelle je tends. Voilà, et j'ai l'impression que homosexuel ou hétérosexuel, c'est le même combat personnel.
Claude-Étienne.
Moi, j'ajouterais que dans les couples hétéros, il y a beaucoup qui ne sont pas chastes. Hein. Ce n'est pas uniquement une question d'être hétéro ou homo, hein. C'est tout à fait différent.
Alors, la chasteté. On est en ligne avec Jean-Luc de Puteaux. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, j'avais une question pour le père. En fait, à ma connaissance, alors effectivement, Paul en a peut-être parlé dans ses écrits, dans le Nouveau Testament, mais à ma connaissance, l'homosexualité n'est condamnée que pour ce qui est de l'homosexualité masculine, où c'est clairement identifié. Pour l'homosexualité féminine, bon, on parle de relations, bon, et on parle de confusion, mais on ne parle pas d'une relation d'une femme avec une femme. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, ça doit être dans la Deutéronome ou dans la Genèse, je ne sais plus. Bon, à ma connaissance, je n'ai pas vu d'autres écrits. Alors, c'est vrai que par allusion, Paul peut parler de condamner l'union contre nature, mais en tout cas, pourquoi est-ce que l'Église catholique, romaine en tout cas, a toujours condamné l'homosexualité féminine, l'a mis dans le même sac que l'homosexualité masculine, alors qu'il n'y a aucun écrit clair concernant l'union d'une femme avec une femme dans l'Ancien Testament, mais par extension aussi dans la Bible tout court.
Alors, Père Christophe Véron, je vous laisse réagir.
C'est plutôt Père Véron à répondre.
Ah merci, ils sont sympas les collègues.
En fait, je vais bien dire quelques mots.
Alors, tu vous compléterais. Tout d'abord, l'homosexualité dans la Bible, elle est très très peu cité, puisqu'on ne doit avoir qu'un extrait, qui est même pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament de Paul. Après ça, les actes ce que l'on qualifie maintenant d'homosexualité, qui est un mot qui est apparu au XIXe siècle, hein, dans la Bible, ce sont souvent des refus d'accueil de l'autre, de l'étranger, et toutes les nouvelles études bibliques qui sont faites aujourd'hui par les gens dont c'est le métier, vont vers ce sens. Alors pourquoi avoir traîné dans l'Église si longtemps la culpabilité et l'opprobre sur l'homosexualité? C'est parce que il était presque interdit dans l'Église catholique de travailler les textes bibliques. Hein, et ça, c'est depuis le Concile de Vatican II, une grande richesse de voir l'Église s'interroger sur les textes et de faire tout un travail qui mette à jour les pratiques, us et coutumes des peuples de l'époque. Voilà.
Alors, est-ce que il n'y a pas dans l'Ancien Testament le passage de Sodome et Gomorre? Je ne saurais pas exactement le situer.
Oui.
Non, mais vient à l'esprit vraisemblablement des gens.
Oui, Sodome et Gomorre, mais Sodome et Gomorre, c'est purement le refus de l'accueil de l'étranger au sein d'un groupe. C'est pas une question d'homosexualité. Et vous avez des parallèles dans l'Ancien Testament de la construction de textes qui vont exactement dans, dans l'explication de ce que je dis. Alors, on a trop peu de temps pour en débattre. Il existe un petit livre clarification sur l'homosexualité dans la Bible qui dit ça de façon remarquable et que les auditeurs peuvent se procurer sur toute bonne librairie.
Jean-Philippe Cavrois.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que, bien sûr, les textes sont importants, il ne s'agit pas de les nier ou de... Voilà. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est que, finalement, dans l'Église et dans la religion catholique, on est renvoyé à un moment à soi-même et au choix qu'on fait en son âme et conscience, à condition d'éclairer sa conscience. Et ça, pour moi, ça a été très important de l'entendre. Et ça m'a aidé à avancer, parce que du coup, en essayant d'éclairer le plus possible ma conscience, et là, on trouve, c'est pas toujours facile, mais on trouve des personnes qui vous aident, notamment l'association Devenir en Christ, qui est vraiment un lieu d'accueil pour personnes concernées par l'homosexualité, que ce soit directement comme moi, que ce soit des parents ou des proches. Mmh. Et cet endroit, justement, vous aide à éclairer votre conscience, parce qu'on fait venir des théologiens, on fait venir des gens d'église, on fait venir des témoignages, on fait venir... Bon, bref, beaucoup de personnes très variées et qui ont crédibilité et autorité. Et une fois qu'on entend qu'on a cette nourriture, qu'on a cette chance de recevoir tout ça, en mon âme et conscience, qu'est-ce que je décide? Comment je vis? Quelle est ma vie? Quelle est ma relation aux autres? Et ça, pour moi, c'était l'ultime, je dirais, recours pour mes choix. Après, bien sûr, j'ai des comptes à rendre, mais au moins, si vous voulez, ça m'a aidé à assumer ce que je décide de vivre. Et dans l'association ou dans les témoignages, on a des personnes qui décident d'être, comme vous disiez, non seulement chaste, mais abstinent, et qui vivent très très bien leur célibat avec la prière, avec d'autres choses, avec d'autres projets. Mais donc voilà, donc chacun a sa réponse en son âme et conscience.